France Culture.
Oh ben là, c'est des petits veaux, ça, c'est pas des vaches. Ils sont rentrés là, des veaux qui sont sevrés, mais autrement, tout est dehors. Tout est dehors. Elles sont dans les champs jusqu'au mois de max 15 décembre, quoi. Après, moi, il y en a qui commencent à veler au 1er novembre, donc je commence à les rentrer au fur et à mesure des termes que des échographies, quoi. Autrement, tout est plein l'hiver, toutes les stabules sont pleines.
Écologie et résistance. Épisode 2, Terre agricole, nourrir ou produire. Une série documentaire de Pauline Mocor, réalisée par Cécile Lafont.
Bah, moi, j'ai 190 hectares avec une quinzaine d'hectares de culture, 15-18 hectares de culture en autoconsommation pour les bovins. Puis je suis naisseur avec un tout petit peu d'engraissement.
Et donc, vous avez un troupeau de combien de bêtes alors ?
Une centaine de vaches. Naisseur avec des vaches Aubrac et Charolaises. J'ai deux races.
Alors, ça veut dire quoi, naisseur ?
Naisseur, bah, c'est-à-dire qu'on fait naître des petits veaux. Et on les amène à un an, puis après on en vend une partie.
Oui, alors vous disiez que vous n'aviez pas eu le temps de déjeuner.
Non. Bon, c'est pas habituel, mais bon, c'est souvent quand même. Les journées sont pas assez longues. Donc on les rallonge comme on peut.
Trop de boulot.
Ouais, bah après on se donne le boulot qu'on veut. Hein, c'est... Parce que on a peut-être un peu trop grand, quoi. Puis un peu trop tout seul aussi, mais bon. On a des structures qui sont de plus en plus grosses parce qu'il le faut. On nous pousse à faire ça, puis on n'a pas trop le choix, quoi. Donc au bout d'un moment, ça, c'est dur. Enfin, moi, cette année, j'ai relaissé de la surface parce qu'on n'y arrivait plus, quoi. Après, 200 hectares tout seul, si on veut que tout soit nickel, oui, c'est faut un peu d'aide, normalement.
Et vous êtes tout seul, alors ?
Bah, tout seul, je prends un gars là pour les foins, mais trois après-midi dans l'année, quoi. Il y a mon père qui a la retraite, qui a 73 ans, qui me file un coup de main de temps en temps, mais vraiment de la bricole. Puis autrement, on s'entraide avec deux voisins, quoi. La manipulation dans l'hiver, dans les stabules, tout ça, quoi. Des trucs qu'on peut pas faire tout seul, quoi. Donc on s'entraide avec un voisin qui est juste au-dessus. Puis autrement, le reste, oui, c'est tout seul, quoi. Et d'embaucher, c'est mort, quoi. On se sort déjà pas de salaire, donc c'est pas... J'ai voulu prendre un apprenti, mais c'est pareil, c'est 1200 euros par mois. Mais moi, je les sors pas pour moi, je peux pas le sortir pour l'apprenti. Alors après, il y a encore la formule de reprendre encore 70-80 hectares de plus et de pouvoir payer un gars. Mais au bout d'un moment, celui qui fait les papiers et puis celui qui répond aux mails, c'est moi. Donc tout me passe dans les pattes, donc non, c'est niette. Il y a un truc qui nous plombe, c'est le matériel. Alors ça, ça augmente plus vite que nos vaches. Et ça, le matériel, il fait que d'augmenter, mais c'est infernal. Il y a des machines, elles ont presque doublé en 5 ans, quoi.
Nous sommes dans le Morvan, à Brassy, sur la ferme de Frédéric Bobin. S'il travaille dans un paysage idyllique, entouré de prés délimités par des haies et traversé de petits ruisseaux où paissent les vaches, son quotidien est bien plus rude qu'il n'y paraît. Pris dans un système de charges et de dettes, il est dans une course en avant à la rentabilité. Dans ces conditions, pas le temps d'imaginer de changer de système de production.
Et vous vous en sortez ?
Ben, si je prends pas de salaire, oui, c'est j'ai ma femme qui bosse. Autrement, je prendrais un salaire à même 1500 balles. Ça collerait, mais j'aurais aucune trésorerie pour l'exploite, quoi. Qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux en avoir. Là, j'ai changé... L'arrière du toit de cabine, il y en a pour 5000 euros. C'est juste un bout de plastique. Donc après, au bout d'un moment, on a beau avoir les rentrées, mais on a les sorties derrière. Les fermages, ils augmentent tous les ans. Fermage, c'est des locations de terre. Donc ça, c'est un indice tous les ans, c'est national. C'est pas compliqué, on a dû prendre 10% en 5 ans. Si vous louez, admettons, un hectare de terre 100 euros, ben, il a 110. Mais si vous louez 150, il a 15 euros de plus, quoi. Et ça, c'est tous les ans, ça.
Alors d'où vient ce régime de propriété foncière qui, aujourd'hui, pousse Frédéric Bobin dans l'impasse ? Autrement dit, le mode d'exploitation conventionnel de la terre est-il le résultat du régime de propriété privée ? On distingue trois âges juridiques autour de la propriété de la terre. Il y a d'abord l'âge classique de l'Antiquité, régi par le droit romain. La terre est rattachée au domaine du maître, il en a l'usage, la fait travailler par des esclaves et perçoit les fruits de la production. Cette période est effacée par l'âge de droit féodal où chaque État, le clergé, la noblesse et le tiers-État, exercent différents droits sur le sol. Les paysans ont un droit d'accès à la terre pour leur subsistance. Le seigneur ne se mêle pas de la production. Il taxe les récoltes, mais les paysans sont autonomes dans leur travail. C'est une économie de subsistance très peu marchande. Les paysans produisent ce qu'ils consomment, ils n'accumulent pas de denrées et n'ont pas la volonté d'accumuler les richesses. Et puis, le régime contemporain de la propriété de la terre se met en place en deux temps. Tanguy Martin est agronome, il passe par l'histoire pour expliquer comment le régime de propriété de la terre détermine son mode d'exploitation et les effets sur les conditions de travail des hommes, des animaux et sur l'environnement. Il distingue deux bornes.
Il y a une première borne qui va être au XVe siècle, c'est la colonisation de Sao Tomé et la création de plantations de rente, l'idée d'aller sur un territoire, de se l'accaparer, de forcer le travail dessus et de créer des cultures de rente, donc destinées à un marché pour faire de l'argent. Et la deuxième borne en France qu'on peut mettre, c'est 1804, le Code civil, et donc la définition de la propriété moderne dans le Code civil, qui est d'ailleurs la propriété privée, c'est le droit le plus absolu de jouir de la chose dont on est propriétaire, pourvu que l'on n'enfreigne pas les lois. Vision moderne où finalement la révolution française aboutit à une révolution bourgeoise où ce ne sont plus les seigneurs qui vont mener la danse mais les propriétaires.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ça, c'est l'article 544 du Code civil.
On a souvent dit que le Code civil avait été rédigé dans un français absolument remarquable, etc. Moi, je me suis beaucoup interrogé. Le droit de jouir de la manière la plus absolue. Pourquoi il y a une manière de jouir de la manière la moins absolue ?
Benjamin Coria, économiste.
C'est invraisemblable. Il suffit de dire de manière absolue. La plus absolue montre, je le dis comme je le pense, la hargne des législateurs contre toute forme de propriété collective. La France, à cette époque-là, elle est couverte de communs. Il s'agissait vraiment de mettre fin à la propriété partagée. C'est un article de combat et l'expression utilisée de la manière la plus absolue le montre.
Ce qui se passe donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est que le pouvoir, donc l'État, les banques, les gens qui veulent faire de l'agriculture un secteur capitaliste, vont nouer un pacte avec une frange réformatrice des agriculteurs qui va porter la modernisation agricole depuis l'intérieur, en fait. La première chose, c'est qu'on va donner un droit social extrêmement fort aux agriculteurs qui s'appelle le statut du fermage. On va dire aux agriculteurs, avant, quand vous louiez des terres, au bout de quelques années, les propriétaires peuvent vous mettre dehors, choisir un nouveau fermier ou reprendre les terres pour eux-mêmes. On dit, vous allez maintenant avoir un statut qui dit que le bail rural, il va être obligatoirement de 9 ans ou plus. Le bail va se reconduire tacitement de 9 ans en 9 ans. C'est-à-dire que très clairement, la propriété foncière est circonscrite et le droit va aller aux agriculteurs. Et ça, c'est une conquête sociale à préserver. Le versant plus négatif de cette conquête sociale, c'est que en ayant un accès de long terme aux moyens de production, les agriculteurs vont pouvoir s'endetter. Et on va proposer aux agriculteurs de se moderniser, donc dire, maintenant que vous avez accès à long terme à la terre, le crédit agricole ou le crédit mutuel vont pouvoir vous prêter de l'argent, vous allez pouvoir acheter des tracteurs, vous allez pouvoir acheter des semences que vous n'avez pas produites vous-même, vous allez pouvoir acheter de la chimie, et vous allez donc pouvoir augmenter la productivité agricole.
Moi, j'ai déjà essayé d'arrêter, il y a 10 ans, l'exploitation, parce que j'en avais vraiment marre. De ne pas sortir de salaire et d'être tous les jours dans le rouge et de se taper des courts termes, trésorerie. C'est-à-dire que pour payer les fournisseurs qui nous envoient les factures tous les jours, j'étais obligé de faire un court terme de 15-20 000 euros pour payer ces gens-là. Puis après, au mois d'octobre, quand les primes tombent, on arrêtait le court terme et d'après, il fallait s'en recogner un parce qu'on était pris. Quoi. On n'avait pas les rentrées par rapport aux sorties. Quoi.
Et donc, vous avez pensé à arrêter ce métier ?
Ah oui. Sauf que j'ai été voir le comptable et le CRIA École qui m'ont dit, mais même si tu vends tout, tu rembourseras pas tes emprunts. Donc j'ai été obligé de continuer. Autrement, c'était... puis je venais de monter le bâtiment, toute la stabule. Mais j'ai essayé de trouver une autre solution, de prendre une autre as pour avoir le moins de frais possible. Et puis, j'ai changé de race. Ça m'a bien aidé parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de frais de vétérinaire. Après, quand on en a marre, on en a marre. Hein. Sauf que là, quand on a les emprunts sur le dos, on n'a pas le droit. Le seul souci, c'est de solder l'histoire. C'est pour retrouver quelqu'un, pour y reprendre. Très compliqué. Hein. Les bâtiments, le cheptel... Le matériel, ça se vend, pas de problème. Cheptel, ça se vendra. Dans tous les cas, si ça se vend pas à la ferme, ça se vendra au marché au cadran. Mais de manière des vaches, il en faut. Tout le monde en cherche. Et par contre, tout ce qui est bâtiment pitaire, après, c'est plus compliqué. Hein. Tout le monde en a ras la casquette. Hein. Si encore c'était rémunérateur, si on était payé à l'heure, ce serait bien. On serait payé au SMIC à l'heure, on serait riche.
Ce qui va changer, c'est que dans les années 45, on va moderniser l'agriculture, ça veut dire la faire rentrer dans le capitalisme, et donc passer de cette agriculture de subsistance à une agriculture où des agriculteurs vont vendre les produits sur un marché pour gagner de l'argent et tirer leur subsistance de l'argent qu'ils gagnent, et non pas la majorité de leur subsistance de la production qu'ils font eux-mêmes. En gros, on va faciliter l'accès de la terre aux paysans qui acceptent de se moderniser. Et les autres paysans, qui sont dits les paysans arriérés, vont être contraints soit d'abandonner la terre, soit ne vont pas réussir à accéder aux parcelles qu'ils pourraient vouloir mettre en valeur. Et donc c'est un système en fait, d'éviction de l'accès à la terre et de choix de qui sera l'agriculteur pour le futur. Et c'est là où le pacte est faustien, parce que ce pacte-là, c'est de dire on va améliorer la condition de vie des agriculteurs, on va libérer le labeur de contingences physiques. Et ce processus de modernisation, il fonctionne aussi sur une révolution technique qui est l'arrivée de tracteurs très puissants, l'arrivée de la chimie de synthèse et la capacité à s'endetter pour acquérir ces nouveaux moyens de production, intensifier l'agriculture en capital et désintensifier l'agriculture en travail, puisque ce phénomène de modernisation va s'accompagner d'une baisse drastique du nombre de travailleurs de la terre. Et donc on est passé de, je crois que dans les années 50, on est à 33% de la population, à aujourd'hui entre 1,5 et 1,9% de la population.
Ça, c'est les petites femelles qui viennent d'être sevrées, au braque charolais.
Et donc vous êtes content alors avec cette nouvelle race là, les Aubraques?
Ouais, c'est le caractère qui me dérange un peu parce que c'est assez speed, un peu comme moi. Sauf que eux, ils sont quand on veut les cloisonner, il faut faire très attention parce que ça a vite fait de foncer quoi. L'an dernier, j'ai eu 3 vertèbres dorsales de cassé moi. Ils m'ont pété les vertèbres. Je suis tombé dans le parc de la barrière et puis ils m'ont pas loupé quoi. Ils m'ont bourré jusqu'à temps que je sorte du parc. Puis c'est mon gamin qui était dehors, je lui ai dit « surtout tu rentres pas ». Il dit « ouais, mais ils sont en train de te foncer dessus ». Je dis « oui, mais j'essaye de sortir, puis après on verra ». Il faisait 300 kilos déjà.
Ça a mis du temps à se remettre, enfin qu'est-ce qui s'est passé?
Moi j'ai pas eu le choix. Enfin si, j'ai pris le service de remplacement, puis au bout de 15 jours j'ai rebossé. Hein. J'ai fait un infarctus là, ça fait un an, puis le poil, ils m'ont fait un arrêt de travail, mais j'ai dit « moi je peux pas m'arrêter ». J'étais 3 jours hospitalisé, puis le 4e je suis reparti. Il a fallu bosser, puis c'est tout. Hein. J'ai pas le droit d'avoir un arrêt de travail, non. Le service de remplacement, c'est 135 ou 155 euros par jour. Moi. C'est impossible. Hein. Je peux pas sortir 3-4 000 euros comme ça. Pour ça que d'être deux sur une exploite, c'est bien. Malheureusement, je suis tout seul. C'est bosser samedi, dimanche, les soirs, je suis jamais là avant 8h30, 9h, les gamins ne me voient jamais. Le matin, il faut décoller. Bon, là, je m'occupe des enfants le matin, j'ai pas le choix. Mais autrement, je décollerai à 6h hein, pour faire le maximum de boulot possible. C'est une vie de chien, comment dire.
Donc, certes, les revenus ont augmenté, les gens n'habitent plus sur de la terre battue et ils ont de l'eau potable et de l'eau chaude à l'intérieur des maisons. Donc, ce sont des progrès indéniables. Mais la façon dont ça s'est passé a amené ces gens-là à connaître d'autres problèmes et. Une grande partie des acteurs gagnent peu d'argent, vit pas très très bien dans la société aujourd'hui. Un labeur qui reste très physique, assez épuisant, et un labeur qui amène une fragilisation sociale, dont la manifestation la plus importante est ce fameux taux de suicide. Et c'est là où il y a un pacte faustien, c'est-à-dire que le capitalisme n'a pas du tout amené le bonheur dans l'agriculture qu'il était censé amener. L'agriculteur va continuer à s'agrandir pour pouvoir produire plus. À chaque fois, il faut des tracteurs plus puissants, une chimie plus efficace, le remembrement qui va permettre la constitution de grosses parcelles qu'on peut travailler avec ces tracteurs, où on va arracher des haies et on va perdre aussi tous les bénéfices apportés par ces haies. On va canaliser des cours d'eau pour éviter qu'ils traversent les parcelles. Et donc, on va simplifier les agro-écosystèmes de manière drastique. Et donc ça va arriver à l'exclusion de tout un tas d'êtres vivants. La Terre n'est plus sacrée, il y a une sécularisation de la Terre. En fait, pour les Romains, détruire la Terre, c'était juste impensable d'aller détruire la fertilité des sols. Aujourd'hui, c'est tout à fait admis dans notre société que c'est possible. Tout ça participe d'un phénomène qui aboutit au désastre écologique et à la participation de l'agriculture au désastre écologique. Et donc, on passe en fait d'une marchandisation de l'agriculture, une marchandisation de la terre, à une financiarisation où en fait tout va dépendre de la capacité de banque ou d'investisseur. Et on arrive même aujourd'hui à un point où en fait un agriculteur qui s'installe aujourd'hui n'est plus sûr de pouvoir rembourser sa dette ou les dettes qu'il va contracter à l'échelle de sa carrière. Et donc il se retrouve dans le risque d'avoir à transmettre des dettes aux repreneurs de la ferme.
Donc, et c'est cette fameuse photo qui est de 1977. Alors, c'était à l'époque, on n'utilisait pas encore les drones. C'était un avion qui avait demandé l'autorisation de photographier les fermes. D'ailleurs, mon papa est sur le tracteur, là.
Nous rendons visite à René Doisy, éleveur de vaches laitières dans le pays des Mauges. Il tient à nous montrer le bureau où sont conservées toutes les archives de la ferme. C'est là que tout a basculé, quand avec son frère, ils ont décidé de passer du conventionnel au bio.
La ferme est entourée de champs de maïs, sur la photo. Sur les 17 hectares, il devait y en avoir à peu près 13 ou 14 hectares en 77 de maïs. Donc c'était vraiment la production principale pour nourrir les animaux. En fait, c'est une production qui, à l'époque, sur la ferme, était intensive. C'est des bêtes qui sont à l'année dans l'étable. Voilà, j'ai pris la succession de la ferme avec mon frère pendant 35 ans.
Au début donc, René et son frère produisent en conventionnel parce qu'ils héritent du modèle des parents qui, après-guerre, ont joué le jeu de la modernisation. Les machines sont puissantes, la chimie efficace, alors pourquoi changer de modèle ?
Le principe, c'était de produire au maximum sur une petite surface et puis utiliser la chimie, utiliser les engrais, toutes ces choses-là.
Et ça vous plaisait à l'époque ?
À l'époque, je devais être beaucoup plus naïf que je peux l'être aujourd'hui. Je copiais plutôt le modèle de mon père. Tout au départ, on pense que c'est le modèle qui est parfait. Parce que un papa, c'est quand même un papa. S'il fait ça, s'il fait pas ça n'importe comment. Et mon papa, il a connu une période où il fallait produire, donc il était dans ce schéma-là. C'est la sortie des vaches pour aller au pâturage. Au lieu d'un réduit pour 70 vaches, on va dire 1100 mètres carrés, et bien là on va tomber sur 8000 mètres carrés. C'est du pâturage dynamique, c'est-à-dire que les animaux ont une parcelle par jour. Et tous les jours, c'est une nouvelle parcelle. Pour vous donner une idée, aujourd'hui il y a 68 vaches qui sont sur 6500 mètres carrés. Un terrain de foot. Donc il y a une densité importante, c'est qu'en fait, dans l'idée, au bout d'une journée, l'essentiel de l'herbe soit pâturé. C'est un réel plaisir de pouvoir les lâcher pour qu'elle aille au pâturage. Un éleveur, quand ses animaux ils sont heureux, qu'ils sont en forme, eh bien, l'éleveur il est heureux aussi. Comme elles vont au pâturage, eh bien, dans le tank, on va voir le niveau de la jauge, ça va monter. Donc c'est toujours intéressant. Quand il y a de l'herbage, le niveau du tank est relativement haut. Quand il y en a moins, le niveau du tank, il baisse. C'est aussi ça d'être bio. C'est qu'il faut savoir accepter, surtout quand ça baisse.
Mais même quand le niveau baisse dans le tank allé, le modèle économique de René Doisy reste intéressant. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est passé du conventionnel au bio. Parce que les faits et les chiffres l'ont convaincu. Sur sa ferme, c'est finalement plus rentable de produire en bio. Il produit peut-être un peu moins en quantité, mais comme il a réduit ses coûts en mécanisation et en engrais et pesticides, ses revenus ont nettement augmenté.
Pour moi, le grand déclic pour la ferme, ça a été lors d'une réunion avec d'autres agriculteurs. On était tous en conventionnel, hein, et on avait un intervenant qui nous a évoqué si on veut faire une culture de blé et qu'elle fasse un rendement satisfaisant, il fallait auparavant mettre 150 unités d'azote à l'hectare, c'est grosso modo 450 kg d'ammonitrate. Et en fait, dans l'idée, demain, il faudra en mettre 200. Benoît, il a dit, en plus de ça, on n'est pas sûr de faire mieux. Il y a de fortes chances qu'on fasse moins bien qu'on faisait auparavant, en termes de rendement. Et ces derniers propos m'ont vraiment fait le déclic. Là, j'ai dit, mais on arrive à la fin d'un système. Si c'est toujours plus et puis qu'on n'arrive plus à faire mieux, parce que moi, j'ai toujours connu ça, en fait. Au fil des années, on mettait un peu plus, mais par ce biais-là, ça permettait d'avoir du rendement en supplément. Mais là, ce n'était plus le cas. Qu'est-ce qu'on attend de la terre dans ces cas-là? Est-ce que ça ne devient pas qu'un support?
Pourquoi vous ne changez pas de modèle? Pourquoi vous ne passez pas un modèle plus qualitatif, genre bio?
Ah non. Non, impossible ça. Tous ceux qui sont en bio, ils ont arrêté.
Frédéric Bobin, éleveur.
Bah parce qu'ils crèvent la faim. Les bestioles se vendent plus du tout. Moi, encore moins bien que le conventionnel. Mais le bio, non, non. Justement, moi, je fais l'inverse. Moi, c'est que je veux que les champs soient nickel. J'ai des copains bio. Hein. Je veux pas raconter de conneries, mais tous les élevages bio que je connais, ils sont pas nickel. Les terres sont pas nickel et les tours de bâtiments sont pas nickel parce qu'ils ont pas les produits phyto. Moi, sans phyto, demain. C'est compliqué. Hein. Bah déjà la céréale c'est mort. Hein. J'arrête. Hein. Si j'ai pas les engrais là pour faire pousser, donc en céréales on fait 10 quintaux si on fait rien. Et c'est du grain qui est pourri quoi. Parce qu'il y a du chardon dedans, il y a tout ce qu'il faut pour mauvaises herbes. On fait plus que du vieux foin de vieille pâture qui donne rien du tout puis c'est que du chien dedans. Donc les vaches elles y aiment pas. Et puis je vends du foin. Je voudrais pas vendre du foin de qui est pas bon, parce qu'autrement, je vais le prendre dans la tête. Hein. Ça, c'est clair. Parce que le souci, quand on passe en bio, le problème, c'est qu'il n'y a aucun désherbant. Quoi. Moi, je vois, je traite beaucoup autour des champs les haies pour que, justement, que ça soit au carré, qu'il n'y ait pas ces ronces qui poussent de jour en jour et d'année en année. Et là, après, de toute manière, on parle d'écologie tous les jours aujourd'hui, mais... Si on ne fait pas les traitements, honnêtement, on use du fioul avec les broyeurs pour arriver à en venir à bout. Mais dans tous les cas, ça grappille tous les jours. Hein. C'est comme une haie que vous laissez pousser. Hein. Au bout d'un moment, il ne pousse plus rien sous l'haie. Hein. Les vaches, elles crèvent la faim, il n'y a plus d'herbe, c'est plus que de la patouille. C'est exactement pareil. Pour moi, c'est un non-sens. Et je me sortir encore bien moins de salaire en bio. Hein. Je peux vous garantir. Parce que moi, des veaux, là, je les broutards, au bout d'un an, ils font 450 kilos. Hein. En bio, ils vont faire 250-300. Hein.
Et pourquoi?
Parce qu'on n'a pas le droit à l'aliment non plus. Hein. On n'a pas le droit à l'engrais, on n'a pas le droit à l'aliment. Mais nous, dans le Morvan, on a des terrains qui sont très pauvres, des bêtes qui grossissent pas vite. Vous allez à 20 bornes d'ici, vous êtes sur le calcaire, ça n'a rien à voir. Mais nous, ici, c'est granitique. Et nous, si on ne met pas de l'engrais et beaucoup de chaud pour relever le pH pour que ça pousse, et ben, on n'a rien. Mais tout ça, en bio, on est un peu... On a peu limité.
Ok, donc le système de production bio ne semble pas convenir partout. Même dans les Mauges, où la terre paraît plus propice et l'herbe plus grasse que chez Frédéric Bobin, tous les agriculteurs ne conçoivent pas de suivre un modèle de sobriété. René Doisy a choisi de produire moins et bio. Mais à quelques kilomètres de sa ferme, Damien Bretaudeau préfère développer son système d'exploitation. En plus de son élevage bovin, il produit maintenant de l'énergie avec la méthanisation. On parle de croissance verte. La question, c'est à qui profite la croissance ? À l'agriculteur ou à la planète ?
Alors là, ce qu'on voit ici, c'est le bâtiment principal de la méthanisation. À l'intérieur, c'est tout ce qui est incorporation. C'est là où on met le fumier, les différents produits qui vont aller dans la méthanisation. Alors là, on voit, il y a des pommes. Dans nos adhérents collègues, on a un arboriculteur qui fait des pommes de consommation. Et donc, quand il fait son calibrage, les déchets, il les amène chez nous. Là, ce qui est à gauche, c'est des déchets de betterave. Et à droite, là-bas, c'est des déchets de farine de blé, je pense. Sur le site d'ici, on traite environ 80 000 tonnes d'effluents d'élevage. Donc, ce qui fait environ 50 000 mètres cubes par an. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 30 camions par semaine. Je crois que c'est pas non plus un trafic routier exorbitant, quoi, quand on divise ça sur 5 jours. Voilà.
La profession agricole, historiquement, elle s'est vraiment assise sur cette idée qu'elle nourrissait le monde. Et effectivement, dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, où les organisations professionnelles agricoles se sont vraiment structurées, ont pris de l'ampleur, et dans cette période qu'on a appelée la co-gestion, hein, où les organisations professionnelles agricoles étaient main dans la main avec les pouvoirs publics, l'idée c'était bien de nourrir le monde. Et donc c'est l'argument principal, hein. On le voit encore quand les agriculteurs se mobilisent, hein, et les pancartes qu'ils affichent c'est on vous nourrit et nous on crève, quoi.
Caroline Mazot est sociologue. Elle s'est intéressée à ceux qu'elle appelle les énergiculteurs, ces agriculteurs qui se mettent à produire de l'énergie.
Mais avec toutes les critiques sur cette productivité et les effets secondaires délétères sur l'environnement, la profession agricole, elle a aussi aujourd'hui intérêt à montrer que ce qu'elle engage, c'est bien sûr nourrir le monde, mais c'est aussi garantir la protection des ressources naturelles, le maintien des paysages et également participer à cette transition, à savoir trouver d'autres moyens de produire de l'énergie et donc se passer d'énergie fossile.
Ça, c'est un mélangeur pour maintenir le mélange homogène à l'intérieur des méthaniseurs. Alors là, il y a un hublot. On peut voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on voit une espèce de couleur gris-jaune un petit peu. Ça, c'est du soufre qui est aggloméré. Et si ça s'en va dans l'atmosphère, c'est ça ce qui sent un peu l'œuf pourri.
Donc la méthanisation, c'est un processus biologique qui produit en fait de l'énergie, de la chaleur ou bien de l'électricité par la transformation de matière organique. C'est un processus très ancien, donc effectivement dans certains pays il a pu être utilisé ce procédé pour par exemple cuire de la nourriture à l'échelle d'un foyer par exemple. Il peut être utilisé à une échelle un peu plus importante, mais locale, pour produire de la chaleur localement, hein, et pour chauffer par exemple une piscine. C'était des projets territoriaux qui ont vu le jour. Et puis, on peut avoir un procédé plus massif, comme on le voit aujourd'hui sur les unités de méthanisation qui voient le jour, où elles sont quasi systématiquement en injection. C'est-à-dire que le gaz produit est directement intégré au réseau de gaz et alimente beaucoup plus massivement toute la population.
Avant, nos fumiers, quand on les mettait en stock dans nos fumières, ils restaient là plusieurs mois, ils commencent naturellement à se dégrader. Et ça, forcément, avant, c'était directement renvoyé dans l'air. Alors qu'aujourd'hui, c'est récupéré tout de suite et c'est transformé en méthane. Puisqu'on nous demande d'être de plus en plus vertueux dans nos exploitations, nous, notre empreinte carbone, elle est bien meilleure qu'avant. Le site, il a été fait avec des apports financiers de chaque exploitation. Donc on essaye aussi de voir ce qu'on peut faire pour un peu sécuriser nos revenus. C'est la méthanisation, pour nous, en faisait partie. Tout comme beaucoup ont investi dans des panneaux photovoltaïques.
Ces projets d'unités de méthanisation, elles répondent systématiquement à un besoin de rentrée d'argent sécurisée pour les agriculteurs. Et donc, l'idée, c'est de vendre de l'énergie pour s'assurer des revenus complémentaires. Et jamais ou très rarement dans l'idée de poursuivre une transition environnementale qui aurait déjà été engagée sur l'exploitation agricole. Donc, ça s'inscrit systématiquement dans une logique de croissance verte et on nous parle jamais de logique de sobriété sur ces exploitations. En fait, les agriculteurs qu'on a enquêtés, on s'est aperçu que non seulement ils étaient des héritiers, mais en fait, ils étaient souvent à la tête de plus grosses exploitations agricoles. Les agriculteurs qu'on a enquêtés sont plus souvent propriétaires de leurs terres et pas locataires. Et effectivement, ils travaillent le plus souvent en conventionnel et donc pas assez rarement en fait en agriculture biologique.
Cette année, on a quelques adhérents qui ont semé des cultures après avoir récolté les céréales au mois de juin, début juillet. Ils ont implanté une culture aussitôt après et elle a poussé dans l'été. Et donc là, c'est récolté en ce moment. Pour il doit y avoir un peu de tournesol, du sorgho, il doit y avoir un peu de trèfle aussi. Enfin, c'est souvent des mélanges pour essayer d'avoir quelque chose de complémentaire pour valoriser au mieux la ration qu'on intègre dans les méthaniseurs.
On met dans ces méthaniseurs aussi de la matière végétale qui va avoir un pouvoir méthanogène plus important. Et quand ces unités de méthanisation elles sont construites, eh bien, il y a un enjeu à les alimenter systématiquement. Dans nos entretiens, les agriculteurs ils faisaient la comparaison avec une panse de vache qu'il faut alimenter en permanence pour produire en fait. Et donc il y a une logique un peu productiviste, hein. Et un gros débat autour des unités de méthanisation, c'est effectivement la question de la concurrence sur l'usage des terres entre énergie et alimentation. Donc, en France, il y a une réglementation qui s'est imposée et qui fait en sorte qu'on peut pas mettre plus de 15% de culture principale dans ces unités de méthanisation. Mais effectivement, il y a des critiques ont été émises hein, sur le fait que on pouvait mettre des couverts végétaux. Donc, il y a des dérives. Certains utiliseraient des couverts pour alimenter les unités de méthanisation en les conduisant comme des cultures principales, c'est-à-dire en mettant de l'engrais, en irriguant, c'est-à-dire en ayant des pratiques agricoles pour développer finalement la productivité de ces couverts. Or, normalement, un couvert est là simplement pour couvrir le sol, il n'y a pas de pratiques agricoles particulières qui sont conduites dessus, quoi.
Aujourd'hui, en France...
Tanguy Martin, agronome.
On est sur un discours qui dit que la production alimentaire ne paie pas bien et que les agriculteurs ont tout intérêt à développer un maximum de production énergétique pour venir compléter leurs revenus, parce que de toute façon, la production alimentaire ne va pas les aider. Et donc, on vient par exemple sur la méthanisation, on fait en sorte d'avoir des bâtiments avec des animaux qui ne sortent pas pour pouvoir récupérer un maximum de déjections. Donc déjà, en termes de bien-être animal, ça pose problème. Et puis ensuite, ces déjections, on les met dans un méthaniseur. Ensuite, ça va créer ce qu'on appelle un digestat. Donc on va créer des effluents. Ces effluents, il va falloir les épandre. Plus on va avoir un gros méthaniseur, donc il peut produire beaucoup d'énergie, plus on va avoir d'effluents. les digestas qui restent une fois qu'on a produit l'énergie, il va falloir les pendre, sauf qu'on va pas reprendre des camions pour les amener très loin, donc on va concentrer les digestas autour du méthaniseur, donc on va surfertiliser certains endroits, et puis c'est des ces digestats, ils sont très riches en azote, mais ils sont pas très riches en carbone, donc il va falloir trouver d'autres carbones pour que ces fertilisants soient vraiment fertilisants là où on les met, et on recrée du désordre dans les flux de matière et les flux d'énergie sur le territoire. Et pour pouvoir épandre beaucoup, ben on a intérêt à avoir des grandes parcelles, donc on va faire sauter des haies, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui soit vraiment dans l'idée de pouvoir articuler ces productions et d'avoir une vraie décision d'orientation politique de comment on va faire. Il n'y a pas de stratégie, en fait. Il n'y a pas de stratégie publique, il n'y a pas de stratégie concertée qui dise, on va produire de l'alimentation pour la souveraineté alimentaire et on va voir comment on organise la production, que ce soit la production d'énergie, mais aussi la production de biomatériaux, parce qu'on peut produire du bois, on peut produire des textiles, et il n'y a pas de raison que l'agriculture ne participe pas à produire des textiles. On ne va pas s'habiller que en nylon ou que avec des produits dérivés du pétrole. Donc il faut bien que la biomasse serve aussi à produire des matériaux. Voilà. La question, c'est comment on fait ça sans mettre en péril la production alimentaire.
La méthanisation, pour vous, ce serait envisageable ?
Non. La méthanisation, nous, on peut pas aller vers un système comme ça. Dans ces cas-là, je perdrais un peu mon âme. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut produire un volume important de fumier. Et ben dans ces cas-là, il ne faut plus mettre les bêtes, il faut plus mettre les vaches au pâturage. Dans un système comme le nôtre, notre fumier, c'est toute la richesse de la ferme. Notre fumier, il est pendu sur toutes les prairies, sur tous les champs. Si demain, on va mettre ce fumier-là dans une méta, eh ben on va récupérer du digesta, bien sûr, mais la vie du sol, elle sera plus la même. Mais le carbone, on va faire comment ? On n'aura plus de carbone. Là, cette semaine, on a taillé les haies. On a fait un gros tas de branchages. Là, mon associé, là, Romain, il a appelé un entrepreneur. Il va venir faire une presta, il va nous broyer tous ces branchages-là qu'on va répandre sur le terrain pour ramener du carbone dans nos champs. Là, on en a une là, qui est à un kilomètre de chez nous, une méta. Mais voilà, après, chacun est libre. Hein. Ce que j'ai peur, c'est que ça devienne plus des entrepreneurs que des agriculteurs.
On a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, l'agriculture industrielle, telle qu'elle est dominante et hégémonique dans le paysage agricole français, on a l'impression qu'en fait, c'est quasiment devenu l'agriculture traditionnelle. En fait, ça date des années 60-70. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et que, tout au long de ce processus de modernisation, il y a eu des résistances. Et ces résistances continuent. C'est-à-dire qu'il y a une part du monde agricole qui est en rejet de la modernisation, pas forcément un rejet conservateur de la modernisation agricole, mais l'idée que c'est un phénomène contingent, que les choses auraient pu se passer autrement, que les choses pourraient se passer autrement. Par exemple, il y a le Shift Project, je crois que c'était en début d'année, ils ont fait paraître un sondage, ils disaient 77% des agriculteurs interrogés seraient prêts à ce que les financements de la politique agricole commune soient plus orientés vers des questions écologiques. Ça va peut-être à l'encontre de certains discours médiatiques ou de certains discours portés par des élites syndicales agricoles, mais c'est une réalité fondamentale. On a 20% des agriculteurs qui votent pour la Confédération Paysanne, qui est un syndicat qui défend ses positions écologiques. Et ça, il faut vraiment ne pas l'invisibiliser et ne pas avoir une analyse monolithique de les agriculteurs contre les écologistes, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont des écologistes.
Quand on sort un peu du système,
René Doisy,
c'est un peu compliqué. Les gens ils nous regardent d'une autre manière. Peut-être que c'est le bio qui est pas bien vu, mais c'est de faire d'une manière différente qui est, à mon avis, pas très bien vu. Parce que ça dérange. Et chez les agriculteurs, on est dans un milieu un peu taiseux où on va pas dire les choses carrément en face. J'ai eu quand même un voisin qui m'a quand même dit un jour, René, je pensais quand même pas que vous produiriez autant d'herbes que vous faites. Il me dit bravo. Eh ben, j'étais touché parce que c'est une réflexion qui est assez rare. C'est un peu un laboratoire à ciel ouvert où, à la limite, tout le monde peut voir comment on fait.
Bon. Moi, j'aimerais quand même qu'on avance un peu. Je voudrais quand même vous montrer ce que c'est une belle prairie. C'est très verdoyant, c'est joli.
Vous voulez être écolo ?
Moitié-moitié. À ma façon, on va dire. Ah ben, j'entretiens la nature quand même tous les jours. Hein. Je passe mes jours. Là, je suis en train de broyer des haies depuis 15 jours. J'en ai encore pour une semaine. Je vais avoir bouffé 1500 litres de fuel pour faire ça. Du jour au lendemain, je peux arrêter ça. Hein. Je peux ne plus broyer, que ça devienne en friche. C'est ce que eux, leur volonté, elle est comme ça. Après, moi, je suis pas comme ça. Enfin, si on a des belles parcelles qui sont broyées, qui sont que les fonds de pré, au lieu d'avoir ça de jonc, c'est rasé, c'est tondu comme une tondeuse, que les fossés sont faits. Enfin, je pense qu'on a un panel de paysages qui est quand même pas trop mal. S'il y a des randonneurs dans les chemins, c'est grâce à nous. Hein. On broie les chemins gratuitement. Les quads, on a des quads à brassier, on a des randonneurs, les gîtes qui sont tout le temps pleins, mais c'est les chevaux, les motos, 4x4, c'est un peu grâce à nous quand même. Hein. Si demain il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de randonneurs, il n'y a plus personne qui va venir là. Hein. Après, il n'y a plus que le lac de Séton pour aller faire du jet ski, puis voilà, hein, basta. Hein. Ce qu'on nous demande là, c'est plus de l'écologie, c'est de la bêtise, hein, c'est du non-sens. C'est de la non-production. Au jour d'aujourd'hui, on n'a presque plus de vaches. Mais là, c'est de la non-production pour encore en avoir moins. Alors, est-ce qu'il faut avoir des friches à la place des champs, avoir des sangliers dedans, des renards, toute la vermine qu'il peut y avoir, ou est-ce qu'on continue à exploiter comme on essaye de faire, et puis on nous laisse un peu tranquille de pas avoir 3 heures de paperasse le matin avant de se lever. Là, quand on veut arracher 100 mètres de haies, il faut qu'on en replante 100 mètres, c'est tout un pataquès pour refaire un dossier encore un coup, que nous, dans le Morvan, d'arracher 100 mètres de haies, ça va pas se voir. On en a des dizaines de kilomètres dans les exploitations de haies. C'est-à-dire, ça, c'est aussi un non-sens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des collègues qu'on a replantés pour stocker du carbone. Mais moi, j'ai dit, les gars, vous les avez arrachés v'là 10 ans, puis aujourd'hui, vous les replantez. Là, par contre, vous avez un problème, parce que moi, celles que j'arrache, je les replante pas, hein, je vous le dis. Hein. On en a largement assez hein, de ça. Hein. Et le plus, quand on reprend une parcelle du voisin, généralement, on essaye d'enlever la haie pour qu'elle nous enquiquine, puis c'est surtout pour l'entretien. Quoi. Puis surtout pour la... pouvoir faire du foin dans la parcelle, que de tourner en rond dans les petits bouts. On essaye d'agrandir les bouts. C'est le seul but. Mais ça aussi, c'en est de l'écologie, parce qu'en fait, quand vous avez 50 haies dans le même champ, puis que vous avez plus que les 4 du tour, c'est beaucoup plus joli au visuel que d'avoir 50 haies avec 50 ronciers, puis tout le reste. Ça, c'est de l'écologie. Après, dans les prés qui sont pourris, dégueulasses, avec des chardons comme ça, puis des ronces, non. Ça, avant, on était amendable, là, 15 ans de ça. Celui qui n'entretenait pas ses haies tous les ans, et celui qui avait des ronciers, il avait une amende. C'est-à-dire que la DDT, s'il y avait un contrôle, et puis qui voyait que c'était pas entretenu, on était amendable. Et au jour d'aujourd'hui, on revient dans le schéma inverse. C'est là que je dis, de toute manière, tous les matins, on nous prend vraiment pour des brebis, parce qu'il faut toujours changer, il faut s'adapter. Sauf que nous, quand on a une règle de conduite, ben non, on ne change pas comme ça, c'est compliqué.
C'est très difficile de se dire, moi je suis agriculteur et donc dans mes contraintes, je détruis le vivant, je détruis la nature. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent se construire positivement là-dessus et qui sont assez cyniques pour ça. Donc, il va dire... j'entretiens l'environnement. Il y a dans l'agriculture et dans la modernisation de l'agriculture, il y a tout un travail idéologique sur la notion de propreté. Qu'est-ce que c'est un champ propre ? Et un champ propre, c'est un champ capitaliste, c'est un champ de monoculture où il n'y a pas une mauvaise herbe. Effectivement, quand on a matraqué pendant 50 ans qu'un bon champ, c'est un champ où il n'y a pas une seule herbe qui dépasse, c'est difficile de se dire que, bah, au final, on peut maintenir des marges agricoles intéressantes en adoptant des pratiques agroécologiques. Par exemple, on a un réseau qui s'appelle le réseau CIVAM, qui a des observatoires technico-économiques sur l'élevage, notamment l'élevage bovin, que ce soit l'élevage pour la viande ou l'élevage pour le lait, et qui montre que dans un certain nombre de cas, adopter des pratiques agroécologiques permet d'augmenter le revenu tout en baissant le temps de travail. Et moi, j'ai une collègue qui bosse donc dans une de ces structures départementales qui racontait qu'elle intervenait auprès de BTS qui se destinent à devenir agriculteurs. Elle expliquait ça, elle disait, ben voilà, si vous adoptez telle ou telle pratique, globalement, ça veut dire faire manger de l'herbe aux vaches plutôt que du maïs. Elle avait des élèves de BTS en face qui disaient, oui, mais si je fais ça, mon voisin va dire que je suis feignant. Alors qu'elle leur proposait de travailler moins pour gagner plus. Parce qu'il y a des verrous sociaux, il y a des verrous idéologiques, et qu'il y a toute une partie, notamment des chambres d'agriculture, financées avec de l'argent public, et orientées pour véhiculer cette idée qu'il faut produire toujours plus. Il y a des intérêts constitués, il y a des banques, il y a des grandes entreprises de l'agroalimentaire, il y a certains agriculteurs, parce qu'on a beaucoup dit que les agriculteurs étaient très pauvres, mais en fait les 10% d'agriculteurs les plus riches en France sont plus riches que les 10% de Français les plus riches. Donc, les agriculteurs, ce n'est pas une population pauvre, c'est une population avec une inégalité de revenus très forte. C'est-à-dire que les agriculteurs pauvres sont très pauvres, mais les agriculteurs riches sont très riches. Et ils sont très riches notamment parce qu'ils ont pris part dans les activités de transformation de l'agroalimentaire. Donc il y a tout un tas d'intérêts constitués qui n'ont absolument pas envie, qui n'ont absolument pas intérêt à ce que ça change. En fait, ils vont avoir à cœur de détourner le regard des problèmes que le système qu'ils ont créé et qu'ils continuent à imposer pose aux agriculteurs, et donc vont constituer des boucs émissaires. Et donc là, l'écologie est un bouc émissaire parfait, et c'est ce qu'on a vécu là très récemment au moment du vote de la loi Duplomb, et au moment des manifestations d'agriculteurs. On nous dit, oulala, les agriculteurs n'ont pas de revenus, il faut trouver des solutions pour leurs revenus, donc on va faire sauter les normes environnementales. En fait, c'est très très difficile d'avoir un raisonnement logique simple qui dise on fait sauter les normes environnementales, les revenus des paysans vont augmenter. Et d'ailleurs, les normes environnementales ont plutôt eu tendance à baisser ces dernières années, et le revenu des agriculteurs n'a pas augmenté. Parce qu'il n'y a pas de corrélation logique entre ces deux choses. Mais c'est pratique parce que ça permet d'éviter d'aller se poser la question de à qui profite le système aujourd'hui, notamment à une partie des élites de la FNSEA, qui font partie de ces 10% d'agriculteurs les plus riches et qui ont très envie de le rester, et à l'encontre des intérêts des fleurons de l'industrie agroalimentaire française, par exemple en tête une entreprise comme Lactalis et son président, M. Beignet, qui est une des personnes les plus riches du pays. Donc l'écologie, c'est un bon bouc émissaire.
Nous, on sait travailler. Moi, ça fait un petit moment que je suis à mon compte, et mon père, j'ai bossé avec lui, donc je sais. Mon grand-père a bossé aussi dans le même métier. On sait travailler. On n'a pas besoin d'eux pour savoir comment travailler.
Mais ils viennent d'où ?
Essentiellement du parc, quoi, ou les écologistes. C'est-à-dire, le plus contraignant, c'est le parc ici. Hein. On a déjà eu des réunions avec eux, c'est folklorique. Hein. Si on les écoute, on est vraiment des arriérés, nous. Hein. Bon. Après, ils n'ont jamais été à leur compte non plus. Hein. Moi, j'entretiens les fossés tous les ans avec une machine. Donc tous les ans, je cure mes fossés pour que la boue s'évacue et que la flotte s'évacue. Parce que les vaches, elles détruisent les berges, ceci. Et puis, bon, ça se remet en herbe, c'est normal, on cure. En 2017, la DDT a pris des cartes. C'est la direction départementale territoire. Suite à... L'État avait dit qu'il fallait refaire toutes les cartographies d'eau. Donc ils sont embêtés, eux. Au lieu de reprendre les cartes hygiènes avec les traits bleus en disant ça c'est un ruisseau, ça c'est des fossés, ben, ils ont regardé le Morvan, donc c'était que des fossés, mais ils ont tout classé les fossés en cours d'eau. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de les curer, on n'a plus le droit de les toucher, on n'a plus le droit de les traverser non plus. Les gens, enfin de la DDT, c'est deux dames qui sont venues au mois de juin nous proposer de recommencer la cartographie. Donc moi j'ai fait tout le dossier, hein, sur toute la commune avec des collègues agriculteurs. On a 32 cours d'eau, donc ils sont à déclasser. Et donc, on était sur le terrain, avec la sous-préfecture. Et là, on est encore tombé sur des mésententes pas possibles, parce que les fossés, on ne pouvait pas les enlever, parce que c'était des frayères à poissons. Sauf que la frayère à poissons, elle était comme là. Il n'y avait rien. C'était de la boue partout, de la tourbe, mais il n'y avait pas de cours d'eau. Alors j'ai dit là, si c'est classé en frayère, c'est pas possible qu'une truite vienne frayer. Quoi. Si. On vous dit que c'est une frayère, et ça ne sera pas touché. Alors là, quand on a des gens comme ça, nous, on a des... Là, tous les nouveaux qui sont arrivés à la DDT, ils sont anti-paysans. Je ne sais pas pourquoi ils se sont mis là-dedans. Anti-paysans, et c'est des jeunes, et c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des trucs qu'eux, ils ont décrétés, et qui ne sont pas sur le terrain, c'est ça le pire. On ne peut pas se plier aux trucs qui nous... C'est tous les jours qu'on a des directives qui sont complètement débiles. C'est comme si les parcelles leur appartenaient, quoi. Mais c'est nous qui sommes propriétaires et locataires, hein, faut quand même pas y oublier. Moi, je viens pas chez les gens dans leur appart pour leur dire ce qu'il faut faire dedans. Hein. Ben là, c'est exactement pareil.
On a des agriculteurs qui disent, ben, nous, en fait, on crève de démarches administratives, on crève de déshumanisation, on crève d'ordinateurs. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit, ben, on va enlever de plus en plus les êtres humains qui faisaient le contrôle, qui venaient discuter avec les gens sur le terrain, et on va les remplacer par des robots, par des drones, par des satellites qui prennent des photos. Ça, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire, mais c'est la rationalisation de l'action publique qui amène à ce type de bureaucratie. Il y a un excès de bureaucratie et qu'il faut y faire quelque chose. Et effectivement, si on veut construire l'écologie et les normes environnementales comme un bouc émissaire, il y a tout un tas de gens qui tirent avantage du système actuel, qui ont intérêt à maintenir la confusion entre normes et bureaucratie pour jeter le bébé avec l'eau du bain et jeter les normes et les règles de vie ensemble, de vie commune, de préservation de la santé, des choses assez basiques, et de les jeter avec l'eau du bain de la bureaucratie, en disant, en fait, toute norme serait ubuesque, toute norme serait problématique, et donc il faut nous laisser faire tout ce qu'on veut, et si ça détruit l'environnement et la santé, tant pis. Le pacte faustien des années 60, de la modernisation agricole, il est faustien, mais c'est un pacte. On a une vision. On sait où on veut amener les gens, on les embarque pour aller là-dedans. Et les agriculteurs s'embarquent dans la modernisation agricole. Il serait tout à fait possible aujourd'hui, avec d'autres politiques publiques, d'embarquer les agriculteurs vers une autre vision. Encore faut-il leur proposer une vision. C'est-à-dire, si on oriente les aides publiques différemment, peut-être que cet éleveur du Morvan qui a du mal à protéger les papillons et à joindre les deux bouts, eh bien, peut-être que ces aides-là qui sont préconisées par le parc du Morvan, eh bien, elles ne sont pas dimensionnées, elles ne sont pas à la hauteur du travail qu'il faut pour préserver les papillons. Et donc, effectivement, un éleveur à qui on dit « on va vous payer des clopinettes, c'est ce qu'on va vous demander de faire, va vous faire perdre plus d'argent que vous n'en gagnez, pour préserver des papillons », quelque part, il va même avoir envie de détruire les papillons. Donc, c'est complètement contre-productif d'avoir ce type de choses. Donc, il y a ces deux choses qui jouent entre convaincre que techniquement c'est possible et trouver aussi une organisation de l'économie agricole qui fasse que ça soit vivable économiquement pour les agriculteurs.
N'importe quel paysan digne de ce nom, il sait comment il faut exploiter son champ pour qu'il soit protégé pour les générations futures. N'importe lequel, c'est ça. Le problème, c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas parce que soit il travaille pour un propriétaire, soit il est soumis à des conditions de concurrence que s'il fait ça, il est éjecté le lendemain matin.
Benjamin Coria, économiste.
La question, elle n'est pas technique, la question. La question, elle est sociale, ça veut dire comment on survit dans un monde, j'ai envie de dire, de brut, et comment on modifie le rapport de force. Elle est là, la difficulté. Le problème, il n'est pas technique, il est entièrement politique. Est-ce que les communs seraient une solution ? Oui. Pourquoi ? Parce que les communs, c'est pas seulement un droit de jouir. C'est un droit de jouir dans le respect des écosystèmes. Et je vais même rajouter un mot. Pour préserver l'intérêt des générations futures. La mise en place de communs, non seulement peut, mais probablement presque un des seuls moyens d'échapper à la destruction des sols à laquelle nous sommes en train de procéder. Voilà. La propriété pourrait donner lieu, le cas échéant, à la restitution d'une partie du revenu, mais ne donne pas droit à décider, je répète, qui produit, comment, quoi, etc. Parce que le propriétaire, c'est une chose, celui qui exploite la terre, c'est une autre, celui qui distribue les produits, c'est encore un autre droit, etc. Alors que dans la propriété privée exclusive, c'est complètement compacté dans une seule personne. Il y a les citoyens aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, on peut peut-être écouter les citoyens quand ils demandent la possibilité d'avoir accès à une alimentation saine. Et donc, comment dire, cette alliance entre 95% des citoyens et le monde agricole doit pouvoir permettre de transformer le monde agricole pour arriver à des conditions dans lesquelles on arriverait vers des aliments sains.
Il faut trouver un système de relation à la terre qui pose un principe de base qu'on ne va pas la détruire. Et ça, ça va passer par une recomplexification pour adopter des nouvelles techniques qui vont notamment être basées sur la coopération avec la nature, qui vont être basées sur l'idée qu'on va avoir une multifonctionnalité de l'espace agricole, c'est-à-dire qu'on va faire plein de choses en même temps. Le changement agronomique passe par l'idée que, mais en fait, on peut produire du bois et de l'énergie en même temps qu'on produit de la ressource alimentaire. Donc, on va avoir des haies et que l'interaction entre les haies et les champs vont favoriser la pousse dans les champs, qu'on va avoir, par exemple, avoir des prairies qui vont avoir plus de une ou deux espèces de graminées, mais qui vont avoir peut-être des dizaines, voire des centaines d'espèces de plantes à l'intérieur, avec des interactions entre les plantes qui vont favoriser une production, et qu'en plus cet espace, il va être aussi un espace de récréation, on va pouvoir avoir des gens qui le visitent, il va être un espace paysager, un espace esthétique. Donc on recrée de la complexité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Et ça, c'est une manière de tenir le capitalisme à distance, parce que le capitalisme, il a horreur de la complexité, il a besoin de tout simplifier pour maximiser le profit.
Donc là, c'est une herbe grasse. C'est une... Là, c'est un vrai plaisir. Alors, je vous dis pas quand... là, on va pas le faire, mais quand je vais marcher dans une herbe comme ça, ça ramène de l'énergie, mais à bloc.
Ah oui ?
Ah bah oui. Ah bah oui, moi, c'est un... J'ai une relation de passer en bio, et c'est tout un processus, mais aussi, je suis vraiment devenu acteur dans la nature, en fait. C'est-à-dire que, entre guillemets, je suis entre la terre et le ciel. Et quand je foule nos prairies maintenant, eh bien, il y a l'énergie, enfin, c'est vivifiant. Hein. Donc, par ce biais-là, je suis un homme heureux quand c'est comme ça. I wanna go down. I wanna be ground. I wanna be fed on. I wanna break down. I wanna be old.
Merci à Frédéric Bobin, Tanguy Martin, Benjamin Coria, René Doisy, Damien Bretodeau et Caroline Mazot. Mention spéciale à Aurore Puel du réseau CIVAM. Prise de son Benjamin Thuot, Nicolas Mathias, Manon Moussin, Geoffrey Marianne, Xavier Lévesque. Mixage Éric Boissé. Documentation Annelise Signoret. Archivina Véronique Jolivet. Chargée de programme Maribona Bolivier et Anaï Morales. Coordination Emmanuel Laurentin. Écologie et résistance. Épisode 2. Terre agricole, nourrir ou produire. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Cécile Lafont.